13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Je vous retrouve avec grand plaisir en ce vendredi pour partager votre expérience de vie jusqu'à 16h. Je serai accompagné de ma camarade Ombline. Bonjour Ombline.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant une heure, nous parlons de vous, de vos joies, de vos peines. Votre vécu nous intéresse. On doute, on tâtonne, on n'ose pas, on ne se sent pas capable, pas à la hauteur. Pour certains, c'est un état passager. Pour d'autres, c'est constant. Le manque de confiance en soi peut considérablement affecter le quotidien et la vie de ceux qui en souffrent. Au travail, dans le couple avec ses amis, existe-t-il des méthodes pour y remédier ? Certains font une thérapie, d'autres optent pour la photo ou la sophrologie pour aller mieux. Mais comment trouver la bonne solution ? Ne faudrait-il pas arrêter d'être trop dur avec soi-même ? Pour reprendre l'artiste britannique Jess Glynn. Manque de confiance en soi, comment y remédier ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous composez comme chaque jour le 39-21. Laissez le numéro du standard d'Europe 1. 39-21, 50 centimes la minute. Twitter, hashtag Europe 1 pour nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 également.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Aurélie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 43 ans et je vous appelle de Boulogne-Billancourt.
D'accord. Alors Aurélie, le manque d'estime de vous est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis des années. Comment cela se traduit et dans quel domaine exactement ?
Alors, j'ai envie de vous parler au passé, c'est comment ça se traduisait, puisque c'est un travail que j'ai commencé il y a longtemps.
D'accord.
Et ça se traduisait par une exigence envers moi-même qui était absolument inatteignable et invivable.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que ce soit, il y a des côtés positifs. Hein. J'ai fait des études très brillantes, mais j'étais toujours majeure de promo. Le choix des postes que j'ai occupés, c'était des postes toujours très exigeants. Mmh. Et jusqu'à ce que j'en fasse un burn-out, hein, que j'ai payé assez cher physiquement.
Oui.
Et puis avec, puis jamais assez bien, c'est-à-dire que toujours une insatisfaction, mais envers moi-même, pas forcément du regard des autres, mais comme j'avais ce regard extrêmement, on va dire, sévère envers moi-même, je pense que j'interprétais le regard des autres à travers mon propre regard.
Mmh. Donc, oui. Vous dites que vous êtes construite à travers l'image de vous. Qu'entendez-vous par là ?
Ça a démarré très tôt, hein. C'est-à-dire que moi j'ai des rapports, je viens d'une famille un peu dysfonctionnelle, on va dire ça comme ça.
Oui.
Et en fait j'ai intégré le regard de ma mère sur moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'en défaire jusqu'à ce que je comprenne que c'était son regard à elle et que c'était pas une vérité absolue. Mm-hmm. Donc ça a mis beaucoup de temps à déconstruire et ça a mis d'autant plus de temps à déconstruire qu'il a fallu que je prenne conscience que c'était pas mon regard à moi et que c'était pas une vérité.
Et ce regard de votre mère, il provoquait quoi ? Des doutes constants chez vous ?
Eh ben oui, parce que moi, l'insatisfaction première de ma mère, c'est qu'elle voulait un garçon. Donc c'est très raté de ce côté-là.
Oui.
Et c'est d'autant plus raté qu'en fait, j'étais sa deuxième chance. Je suis la deuxième, donc elle est une première fille. Bon, elle disait qu'elle avait une deuxième chance. Mm-hmm. Et avec moi, c'était raté. Et il y a une phrase en fait qu'elle a répétée assez souvent. C'est-à-dire que je suis née par césarienne et quand on m'a sortie, j'avais le cordon ombilical entre les jambes. Et elle aimait raconter cette histoire que, voilà, qu'elle a cru que j'étais un garçon, mais elle n'a été déçue qu'une heure. Sauf que vous multipliez cette heure-là par le nombre de fois où l'histoire a été racontée, ça fait beaucoup d'heures de déception cumulée.
Oui, oui, je me doute, oui.
Et puis, sans compter les adjectifs, acquérir l'adjectif qu'elle m'a posé. Hein, donc j'étais superficielle en premier, j'étais hautaine, méprisante, vénale et intéressée.
Mmh. Voilà. Bon, ça, avec cette description qui sort de la bouche d'une mère, je suppose que votre construction et la confiance que vous aviez en vous a dû être très difficile à élaborer, à construire.
Voilà, exactement. Ça a été compliqué et ça a mis du temps vraiment. C'est ce que je dis généralement quand on commence à consulter, on consulte parce qu'on ne va pas bien. C'est pas on consulte, je sais que j'ai un problème d'estime
ouais.
de moi.
Mmh.
C'est au fur et à mesure du travail qu'on commence à comprendre que ça vient de là, ce qui est déjà une première étape. Et ensuite, il faut déconstruire tout ce qu'on a intégré, qui était faux, et ensuite trouver sa place à soi. Et mmh. ça prend du temps.
Ça prend du temps. Alors plus tard, vous aviez l'impression de devoir aussi prouver des choses, notamment au travail.
Oui, parce que quand vous partez du principe, pour schématiser, quand vous partez du principe que vous ne valez rien,
oui.
Il faut absolument prouver et compenser, pas seulement aux yeux du monde, surtout aux vôtres, mais ça ne marche pas, c'est un cercle vicieux parce que vous êtes comme le postulat de départ, c'est que vous ne valez rien. Quels que soient les exploits que vous pourriez faire, ça ne compensera jamais le fait que vous ne valez rien. Donc, c'est ça aussi qui peut amener typiquement à un burn-out.
Alors, justement, c'est ce qui traduit cette exigence permanente envers soi-même et que vous avez vécu.
Oui, oui, c'est-à-dire que il y a une exigence permanente pour peu que vous tombiez sur un management qui perçoit cette chose-là
oui.
et qui sait comment la manier.
Ça doit être terrible.
Moi, je sais que ça a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'on a commencé à me demander des rapports d'analyse à 11h pour 15h. Du coup, je faisais sauter le déjeuner.
Oui.
Et puis, j'en ai fait sauter un, puis deux, puis trois, puis je restais jusqu'à 22h. Et puis, je ne voyais pas où était le mal, en fait.
Oui.
Et quand j'étais en arrêt de travail, j'étais considérée en télétravail.
Oui.
Et en fait, le seul moyen que j'ai trouvé pour mettre un stop à ce cercle vicieux, c'est de me faire hospitaliser. Parce que je savais que j'étais inatteignable à l'hôpital, qu'ils n'oseraient pas quand même. Mmh.
Quel impact cela a-t-il sur votre vie de couple? Parce que lorsqu'on manque de confiance en soi, généralement, c'est à peu près dans tous les domaines. Mais le couple, c'est l'intimité. Donc, comment ça se passait à ce niveau-là?
Dans la vie de couple, pour le coup, vous faites des mauvais choix aussi, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que là où vous ne vous sentez pas bien et vous avez une difficulté professionnelle majeure, vous pouvez avoir un compagnon qui vous dit « Ouais, enfin, quand même, t'es chiante, moi, je n'ai pas signé pour ça. » Et tout est cohérent avec votre manque d'estime de vous puisque vous la renvoyez quelque part.
Mm-hmm.
Donc, vous faites les mauvais choix. Vous faites les mauvais choix de travail au sens où vous allez tomber sur quelque chose. Vous choisissez en pleine inconscience, on va dire ça comme ça, un travail qui va vous conforter dans cette image faussée que vous avez de vous, donc toujours dans l'exigence, mm-hmm. et puis vous allez choisir aussi des relations qui vont vous conforter dans ce fait que vous ne méritez pas non plus d'être aimé et que voilà, vous tombez sur des gens, quand vous êtes hospitalisé, votre conjoint, lui, part en vacances, parce que quand même, quoi.
Toujours avec cette impression de devoir constamment prouver sa valeur, ce qui biaise énormément les relations. Vous restez en ligne avec nous, Aurélie. Nous allons continuer à parler de votre manque de confiance en vous et de votre méthode, justement, pour y remédier.
Europe 1.
Comment reprendre confiance en soi? On vous écoute au 39-21. Vous nous écrivez également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Un nouveau matin, une nouvelle journée, une nouvelle vie et vous vous sentez bien, chante Nina Simone, des préceptes à se répéter comme un mantra. Comment reprendre confiance en soi? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et vous composez le 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Aurélie qui nous expliquait d'abord son enfance avec une mère qui, on a du mal à entendre les descriptions que faisait votre mère de vous, Aurélie, ce qui a contribué à une construction qui a abouti sur un manque de confiance terrible en vous, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, et puis en tant qu'adulte ensuite, on l'a entendu dans la première partie de cette émission, dans le travail, ce qui vous a mené au burn-out. Comment avez-vous compris d'où venait ce manque de confiance en vous? À quel moment avez-vous réussi à mettre des mots dessus?
Entre le milieu et la fin de ma vingtaine,
oui.
où j'ai commencé à comprendre et à identifier qu'il y avait effectivement un déficit d'estime de moi. Et c'est dans les 5-6 années qui ont suivi où j'ai mesuré vraiment l'ampleur et les contours du phénomène et que j'ai du coup pu travailler dessus en thérapie.
Et ça passe par quoi? Par une sorte de bilan de votre vie que vous avez fait à ce moment-là?
Je ne sais pas si c'est un bilan. En fait, c'est plus un constat où vous finissez avec les années cumulantes, c'est l'avantage aussi de l'expérience.
Oui.
Vous finissez par identifier quand vous êtes bien et quand vous êtes moins bien et par du coup déduire ce qui vous convient ou pas Et quand, par cette analyse un peu empirique, vous finissez par mettre le doigt sur certaines choses qui permet ensuite d'avancer, quoi, et de ne pas s'imposer des choses. C'est plus ça. C'est pourquoi essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on s'impose des choses alors qu'en fait ça nous coûte et qu'en face, ça ne produit pas forcément la réception n'est pas à la hauteur de l'effort que vous fournissez. Donc,
Alors, vous avez une idée assez incroyable, hein, c'est de faire une séance photo pour vous sentir mieux. Quel était le but de cette séance photo et pourquoi des photos?
alors, initialement, moi j'étais en train de négocier mon départ. Et pour le coup, pour préparer l'étape d'après, je me dis, bon, en plus, voilà, tu as 40 ans passés, c'est l'occasion, fais-toi des photos. Donc, on va dire, le pitch que je m'étais fait à moi-même, c'était celui-là. Donc, ça faisait plusieurs années que je suivais une photographe sur Facebook qui s'appelle Marion Fréjac. Et en fait, je la suivais parce que je trouvais que ses photos étaient naturelles. Et donc, après avoir discuté, on est parti sur une séance de 25 photos sur ses conseils parce qu'elle m'a dit, je vous assure, ça va être compliqué de choisir. Et elle avait raison. Et on est parti sur une séance d'une après-midi, 3 heures, intérieur, extérieur, dans son studio. Et j'étais très surprise des résultats, en fait.
Oui, parce que sur ces photos, même si votre quête de besoin de vous sentir belle, hein, sans doute, et puis peut-être que quelqu'un prenne soin de vous, ça vous a fait un bien fou, hein, je crois. Ça vous a totalement redonné confiance en vous, cette séance photo.
Exactement, c'est-à-dire que je pensais, si vous voulez, moi, mon déficit d'estime de moi, il porte surtout sur le niveau, on va dire, intellectuel. Si je dois schématiser, je suis un peu coconne, mais physiquement, j'ai été bien dotée, quoi. Donc, je ne pensais pas, en fait, que ça me ferait autant de bien, parce que je me disais, physiquement, j'avais relativement confiance en moi. Mais ce que Marion Fréjac a su arrive à faire, c'est qu'en fait, elle arrive à vous ôter ce regard extrêmement sévère. Elle vous pose un regard bienveillant. Et du coup, vous vous voyez comme vous aimeriez vous voir, mais en fait, c'est vous. C'est vous sans le filtre négatif que vous mettez tous les jours.
Vous voyez en fait de manière naturelle, hein, finalement, ça n'est pas. On parle souvent sur les réseaux sociaux avec toutes ces applications de filtres qui rendent les gens beaux. Là, on est dans une photo assez pure, assez subtile, qui rend la beauté tout à fait naturelle. C'est ce qui vous a fait du bien, je crois.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surmaquillage, les photos en extérieur, c'est la lumière naturelle. Et de toute façon, moi, je pars du principe qu'un beau photographe, c'est quelqu'un qui sait capter la lumière. Et Marion Fréjac a fait ça incroyablement bien. Et ce n'est pas seulement la lumière extérieure, c'est la lumière que vous avez en vous, en fait. C'est ça qu'elle arrive à faire. Et j'étais étonnée. Je me souviens donc, vous faites la séance, à la fin, vous sélectionnez l'ensemble des photos pour qu'elles partent, qu'elles puissent les retravailler un tout petit peu, hein, que ce soit du cadrage ou une retouche par-ci, par-là. Je me souviens, il y a une photo où je me dis, waouh! J'ai eu un waouh en me regardant moi.
Très bien.
Et en fait, c'est resté longtemps. Parce que même les jours où, voilà, où j'ai eu une mauvaise nuit, et, enfin, on a tous ces matins, on se voit dans le miroir, on se dit, mon Dieu, ça va être compliqué. Mais en fait, ces photos-là, elles sont restées en tête.
Ça vous a porté. Je crois savoir que vous avez aussi parallèlement entamé une thérapie qui vous a beaucoup aidé aussi. Vous dites que c'est valorisant quand quelqu'un vous écoute. Racontez-moi pourquoi vous avez ressenti cela et combien ça a eu un impact sur vous.
En fait, la thérapie, moi, j'ai commencé parce que j'allais très mal, hein, c'était un mal-être. Je ne savais pas mettre le doigt sur les causes ni quoi que ce soit, mais c'est à un moment donné, ça va pas, il faut que vous parliez à quelqu'un. Et en fait, la thérapie, c'est quelqu'un qui vous écoute pleinement et avec bienveillance. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a trois choses, et moi, je fais le tri maintenant aussi dans mes relations, c'est les gens qui sont à l'écoute, sans jugement et bienveillants. Et bon, vous allez me dire, le thérapeute, il est payé pour ça. Mais pour le coup, quand vous venez d'une famille dysfonctionnelle, votre parole est constamment rabaissée ou piétinée,
Remise en cause.
ou remise en cause, le fait d'aller voir un thérapeute, c'est un espace d'écoute qui est vraiment une bulle de sauvegarde, quoi. Et quand je dis à l'écoute, bienveillant et sans jugement, en photo, c'est valable aussi. C'est-à-dire que quand vous avez une photographe qui prend le temps de vous appeler et d'échanger avec vous au téléphone, qui prend le temps de discuter un petit peu avec vous aussi en début de séance, et qui prend, enfin moi au total, j'ai eu 3 heures. 3 heures, plusieurs tenues, intérieur, extérieur, re-intérieur, sélection des photos. Il y a vraiment quelque chose de bienveillant et y compris dans les prises de photos. Il y en a qui sont ratées, mais quand on les a regardées, on rigolait toutes les deux. Quoi.
Mmh. Et Aurélie, vous allez beaucoup mieux aujourd'hui, et j'ai envie de dire que vous allez beaucoup mieux grâce justement à cette thérapie où enfin on a reconnu votre parole, sans la juger, sans la remettre en cause, et que à travers l'objectif d'une photographe, eh bien, on a fait ressortir la réalité, le naturel qui était le vôtre, et que cette confiance, elle est revenue par là. Et pour cela, je vous remercie d'avoir partagé votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Emmanuelle Gontier. Elle est psychologue et elle travaille notamment pour la plateforme d'écoute ProConsult.
Europe 1.
Comment arrêter de se dévaloriser? Comment gagner en assurance? Y êtes-vous arrivé? Comme Aurélie, vous avez vos astuces? Vous nous racontez au 39-21. Un seul numéro, le 39-21. Vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1 jusqu'à 16h. Vous n'avez pas confiance en vous? Ça vous empêche d'être vous-même, ça vous empêche d'avancer. On vous écoute et on vous lit via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Emmanuelle Gontier, psychologue. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour.
Je vous en prie.
Alors les personnes qui doutent constamment d'elles, qui n'ont pas confiance, le sont généralement depuis toujours ou ça peut arriver en cours de route?
Ah, ça peut arriver en cours de route, mais je pense qu'il y a certainement un terrain qui favorise, ou en tout cas qui est un petit peu difficile et qui va favoriser, je dirais, effectivement des expériences difficiles au cours de la vie. C'est vrai que si l'expérience de la petite enfance, j'ai entendu Aurélie, et effectivement, elle a été très, très claire dans sa description. Son histoire est quand même très, très symptomatique. On sent qu'il y a une fragilité historique lorsqu'elle était plus jeune.
Qui vient de la maman. Hein. On peut parler là d'éducation que l'on reçoit à ce moment-là et qui y est pour quelque chose.
Oui, et puis elle l'a exprimé très clairement elle-même aussi. Toutes ces expériences n'ont fait qu'accentuer aussi ce sentiment de ces difficultés, hein, ce manque de confiance qu'elle n'a jamais réussi finalement toute seule, sans une aide extérieure, à surmonter.
Mmh. Alors certaines personnes sont d'un naturel timide, discret.
Oui.
Cela veut-il dire forcément qu'elles n'ont pas confiance en elles?
Non, pas forcément. Parfois, c'est ne pas forcément vouloir se mettre en avant, ça n'est pas forcément ne pas avoir confiance en soi. Les moments où on a besoin d'avoir confiance en soi et où il faut l'exprimer, sont pas systématiquement tous les jours, au quotidien, etc. Il y a des moments où, lorsque c'est nécessaire et qu'on n'y arrive pas, là, on peut effectivement se dire qu'il y a une difficulté. Voilà, la timidité n'est pas forcément le manque de confiance. En revanche, le manque de confiance est souvent exprimé par de la timidité.
Ouais. Mmh. Parce que moi, si vous voulez, j'ai l'impression que je connais des personnes qui ont très très confiance en elle ça n'est pas obligatoirement les plus brillantes connais.
Non,
par contre, voilà, moi j'en connais d'autres qui manquent profondément de confiance en elles, et j'ai l'impression que ce doute permet d'avancer et que c'est souvent un réel bon moteur pour avancer.
Ça permet de se dépasser, finalement. Quand on écoute Aurélie, là, qui était dans le perfectionnisme, puisqu'elle était vraiment très, très exigeante vis-à-vis d'elle-même, un petit peu aussi les exigences que certainement sa mère lui a demandé, sans pour autant réussir à les combler. Effectivement, ça n'a rien à voir avec les compétences. Et donc, elle a fait un maximum pour... elle était très, très compétente, visiblement.
Ouais, ouais, ouais.
Mais finalement, sa confiance n'a rien à voir avec ça.
Mmh. On a vu comment elle a regagné cette confiance d'ailleurs à travers des séances photos et puis à travers une thérapie finalement on se rejoignait dans une sorte de respect de la parole, en tout cas d'écoute, un non-jugement. Que peut-on faire pour retrouver ou gagner à nouveau la confiance en soi? Est-ce qu'il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres?
Aurélie nous a montré qu'il y avait deux types de méthodes, c'est-à-dire une thérapie, c'est-à-dire qu'on se tourne un petit peu vers soi, on essaye de comprendre ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé, comment on a réagi face à tout ce qu'on a vécu.
Ouais.
Et puis après, il y a aussi des méthodes, je dirais, entre guillemets, un petit peu plus « rentre-dedans », entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va être plus dans l'action. Là, elle a fait une séance photo, mais on peut faire aussi d'autres choses, c'est-à-dire que le fait de se lancer soi-même va nous renvoyer aussi une image positive de nous-mêmes.
Oui.
Donc, ça peut être des choses qui nous plaisent, qui nous conviennent, c'est-à-dire essayer de ne pas fuir le regard des autres, parce que ça, c'est important aussi de s'y confronter, s'engager dans une activité qui nous procure de la satisfaction et un regard aussi de soi-même, sur soi-même, plus positif.
Oui.
Et puis viser aussi des objectifs plutôt réalistes, parce que là, on a vu aussi avec Aurélie, c'est-à-dire qu'elle était dans l'insatisfaction permanente parce qu'elle s'est mis des barres très très hautes et difficilement atteignables finalement.
Ce qui est généralement le comportement des gens qui manquent de confiance en elles, c'est de toujours se mettre des barrières, toujours plus hautes. Comment s'affirmer justement au travail, par exemple, parce que le manque de confiance en soi peut être handicapant dans une carrière. On veut toujours aller plus loin.
Bien sûr. Je crois que la base de tout, vraiment, à l'origine, le socle, c'est l'acceptation. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'accepte tel qu'on est. Et dans l'expérience d'Aurélie, par rapport à la photo et par rapport à la thérapie, elle nous a bien dit que les personnes qui étaient autour d'elle n'avaient pas de jugement. Mmh. Ça lui a permis aussi, elle, de se rendre compte que finalement, elle avait une valeur très importante et d'accepter telle qu'elle est.
Mmh.
Et donc, je crois que c'est vraiment la base. C'est l'acceptation.
L'acceptation.
Et de pouvoir se dire, bah oui, je suis comme je suis, j'ai de la valeur et voilà.
Aussi bien dans la vie sociale aussi. Hein,
oui,
il faut oser dépasser des barrières que l'on se met tout seul. Quand on se rend compte que ces barrières, on se les met tout seul, eh bien, ça, c'est là que ça commence à avancer.
Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que les personnes ont compris aussi où elles en étaient et d'où venaient ces barrières. Une fois qu'on a compris ça, c'est déjà plus facile de les surmonter parce que sinon, il y a des mécanismes inconscients qui se mettent en place et finalement, on n'arrive pas à les surmonter parce qu'on ne les a pas comprises.
Et quand on comprend ça, c'est déjà un grand, grand pas.
C'est déjà énorme.
Emmanuel Gontier, vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous serons avec Kate. Elle a été rabaissée dans son enfance. Aujourd'hui, elle n'arrive toujours pas à croire en elle.
Europe 1.
Vous ne croyez pas en vous, vous vous dénigrez, vous vous dévalorisez. Comment lutter contre ça? On vous écoute au standard d'Europe 1, le 39-21. Vous n'avez pas confiance en vous, venez nous raconter aujourd'hui. Vous avez cessé de vous dévaloriser. Eh bien, comment vous avez fait également? On vous écoute, vous discutez avec Olivier Delacroix au 39-21.
Et nous sommes en ligne avec Kate. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Kate.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 43 ans et j'habite le nord de la France.
D'accord. Alors Kate, vous avez vécu une enfance difficile qui ne vous a pas aidé à vous affirmer. Racontez-moi par où vous êtes passée pour en arriver là.
Une enfance assez compliquée, effectivement, avec une mère assez abusive et violente.
Oui.
Qui ne m'a pas du tout permis d'avoir... confiance en moi, en fait.
Alors, lorsque vous parlez de violence de la part de cette mère, ces violences étaient verbales. On a entendu dans la première partie de cette émission Aurélie qui parlait d'une mère qui l'a qualifiée vraiment, enfin en tout cas qui l'a rabaissée. Est-ce qu'il en était de même pour vous?
Oui, c'était des violences à la fois physiques et morales.
D'accord.
Et je pense que le plus compliqué, ce sont les violences morales, en fait.
Oui,
oui. Physique, c'est pas qu'on oublie, mais une page de nous se tourne. Mais morale, ça fait très, très mal.
Mm-hmm.
On est vraiment pas valorisé.
On sait qu'on se construit déjà, il y a des périodes vraiment centrales dans la construction d'un être humain. L'enfance, bien évidemment, entre 0 et 3 ans, ensuite à 7 ans, et puis en tant qu'adolescent, vous, adolescente, cette mère continuait à vous rabaisser quand vous étiez adolescente?
Oui, tout à fait. Ces violences ont continué jusqu'à l'âge de 20 ans, en fait, le jour où je suis partie de la maison.
D'accord.
C'était la seule issue.
On peut imaginer qu'à 20 ans, Vous êtes partie de cette maison, quittant cette mère, dans un état de totale non-confiance en vous. Vous avez rencontré à nouveau des difficultés donc, dans le monde professionnel. Racontez-moi comment ça s'est passé, en fait, au niveau du travail.
Alors, pas évident, parce que je suis dans un milieu... Je travaille dans un milieu d'hommes, en fait.
Oui. Vous faites quoi?
Déjà, c'est pas évident. Je m'occupe de la maintenance de groupes électrogènes.
D'accord.
Donc, c'est gérer des techniciens.
Oui.
Et donc, au quotidien... C'est aussi pouvoir imposer des choses.
Mmh.
Pas forcément évident quand on n'a pas confiance en soi.
Oui.
Mais après, le rapport avec les hommes est différent qu'avec des femmes, je pense.
Vous entendez quoi par là? Parce que vous soulignez quelque chose aussi, à mon avis, très important, parce qu'on parle de manque de confiance aujourd'hui. Lorsque vous avez affaire à des hommes, qu'entendez-vous par ce que vous venez de dire? Est-ce que c'est... plus facile quand on manque de confiance en soi de s'adresser à des hommes plutôt qu'à des femmes, où là ça devient plus compliqué?
Pour ma part, oui. Ouais. Pour ma part, oui.
Mm-hmm.
Oui, tout à fait. Maintenant, après, je ne sais pas, je ne vais pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais pour ma part, oui.
Mm-hmm.
C'est sûr.
Voilà, ce manque de confiance, il se traduisait comment? Vous n'aviez pas confiance en votre capacité à leur... à leur dire ce qu'il y avait à faire, ce qu'il fallait rectifier quand il y avait des choses à rectifier. Comment ça se traduisait?
Oui, en fait, le manque de confiance, c'est par rapport à ce qu'on est capable de faire, en fait. Depuis que j'ai quitté cette mère à 20 ans, essayer de trouver, être en mesure de savoir ce qu'on est capable de faire. C'est pas évident, en fait, de se construire et de dire qu'on est capable alors qu'on a toujours été abaissé. C'est aller chercher très loin, en fait. Se dire qu'on peut y arriver, c'est pas évident, en fait. C'est ça. Non, c'est pas facile.
Je sens, en fait, que ce manque de confiance, il est un peu général. Vous avez rencontré votre mari très jeune, Kate, et vous dites que personne d'autre que lui ne pourrait vous aimer.
Oui.
Pourquoi, en fait?
Parce que je l'ai rencontré jeune et qu'il me connaît, et je pense qu'il a vécu plein de choses avec moi, en fait.
Oui.
Qu'est-ce
qui empêcherait un autre homme? Alors, bien évidemment, si vous êtes très bien avec cet homme, loin de moi, l'envie de vous inciter à expérimenter d'autres territoires, mais pourquoi cette réflexion de se dire « il n'y a que lui qui peut m'aimer » ?
Comme vous le soulignez, le manque de confiance en moi, il est général, en fait.
Ouais.
Que ce soit aussi bien au niveau du travail, que ce soit au niveau du physique, que ce soit au niveau... tous les domaines, en fait. Je pense que c'est un manque complet de confiance en soi. Donc, je pense que quand je dis ça, c'est que je pense que c'est la seule personne...
qui vous fait confiance.
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Mm-hmm. Ouais.
Aujourd'hui, vous avez deux enfants, Kate.
Oui.
Comment vous les aidez à prendre conscience de leur valeur à eux, de leur capacité? Parce que lorsqu'on est maman, la mission première, c'est ça. Et je sais que vous l'avez bien en tête, ça, que c'est votre mission. Alors, comment vous faites?
Déjà par rapport à l'école.
Ouais.
Déjà les valoriser, c'est important.
Ouais.
Même si les résultats ne sont pas forcément là, mais leur indiquer qu'ils ont fait de leur mieux et que c'est le principal.
Mmh.
Après, c'est au quotidien, leur dire que ce qu'ils font est bien, que ce soit même dans leur exploit sportif. Je pense qu'il faut toujours les mettre en avant.
Mmh.
Pas toujours évident. J'essaye au maximum de leur montrer qu'ils sont importants et que ce qu'ils font, c'est bien, en fait.
Alors, même si vous dites que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, ces enfants ont quand même des résultats à l'école. Force est de constater que vous aussi, Kate, vous avez des résultats professionnellement parlant, puisque dans cette entreprise, on continue à vous faire confiance. Or, vous continuez à avoir ce manque de confiance en vous. Est-ce que vous êtes aidé aujourd'hui? Vous faites accompagner un peu?
Oui, je suis aidée par une psychologue depuis 3 ans déjà, qui fait un travail formidable. Je vois vraiment la différence, mais je pense qu'après, ce manque de confiance, c'est à moi de le travailler. Elle peut me donner un chemin à suivre, mais je pense que le plus gros du travail, c'est à moi de le faire, en fait.
Mm-hmm.
Pas évident, mais je pense que c'est à moi de le travailler.
Alors, vous avez essayé la sophrologie, le yoga, tout ça, toutes ces techniques qui se permettent de se reconnecter à soi-même?
Non, on m'en a déjà parlé, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Non.
Écoutez, On dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais en fait, on se rend compte souvent que quand on décide de le prendre, ce temps, de se l'accorder, eh bien, on arrive à le trouver, ce temps, toujours. Et voilà, je vous donne un petit conseil. Essayez de ça, le yoga, essayez de vous reconnecter avec vous, et peut-être que vous trouverez la quête que je viens d'entendre pendant 7 minutes sur Europe 1, cet après-midi, qui parle, qui sait exprimer ce qu'elle ressent de manière très claire. Et moi, j'ai confiance en vous, vous voyez.
Merci.
Bah oui, mais parce que
merci
vous,
beaucoup.
Bah parce que vous m'inspirez vraiment l'humilité et que l'humilité, c'est aussi quelque chose qui doit être souligné parce que c'est beau et que ça porte.
Merci
d'avoir partagé votre histoire cet après-midi sur notre antenne. Dans un instant, nous accueillerons Marie. Elle a toujours eu tendance à se sentir inférieure aux autres et on va en parler dans quelques instants.
Europe 1.
Nous parlons du manque de confiance en soi, peur d'être jugé, critiqué, se sentir inférieur aux autres. Comment le vivez-vous au quotidien? Vous nous le dites au 39-21. Vous souffrez d'un manque de confiance en vous? Vous en parlez cet après-midi au 39-21 avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Marie. Bonjour Marie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, merci beaucoup.
Ben, je vous en prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Marie?
Alors moi j'ai 43 ans et je vous appelle de Vannes dans le Morbihan.
D'accord. J'ai été il y a très longtemps faire un festival de rock qui s'appelait Ouvrez les vannes, mais je sais qu'il n'existe plus.
N'existe plus.
Non.
Mais la... Ah bah oui, ça aurait été sympa de vous rencontrer parce que je vous adore beaucoup.
Merci beaucoup, mais le rock existe toujours à Vannes parce que je sais que le public breton est un public extraordinaire.
Très festif, tout à
très
fait.
Festif.
Ouais, on est prêt à faire la fête, ça, on adore ça.
Exactement. Alors, revenons-en à cette confiance en soi. Vous dites que la confiance en soi est un mythe. Pourquoi vous dites ça?
Oui, parce que ben, disons que moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai recherché et que pour moi qui n'est jamais acquis en fait. Je pense que j'arrive pas trop à comprendre. Ouais, confiance en soi, c'est quelque chose que moi j'avais pas, donc j'ai toujours recherché. C'était un défi. Et en même temps, je trouve que c'est toujours quelque chose qu'il faut toujours remettre en cause un petit peu. Enfin, suivant les conditions, les gens avec qui on est, la confiance en soi n'est pas toujours la même. Et c'est quelque chose.
Comme une sorte de façade que certaines personnes se donneraient.
Oui aussi, voilà. Ça, j'ai remarqué ça aussi parce que j'ai des personnes que moi j'admirais parce que j'avais l'impression qu'elles, des personnes qui, présentent bien ou vraiment avaient donné l'impression d'avoir confiance en eux.
Ouais.
Et moi j'ai appris que il y a parfois des personnes aussi qui donnent, c'est une façade parce que finalement, ils ont aussi leurs failles et puis ils arrivent à les dépasser en public. Mais quand ils se retrouvent chez eux, ils ont aussi leur petit complexe et donc il y a aussi il y a deux personnalités, j'ai l'impression,
Ce qui reviendrait à penser que tous nous avons nos failles et que à plus ou moins grand degré, eh bien nous n'avons pas confiance en nous. Vous avez tendance à vous sentir inférieur aux autres, à vous rabaisser.
Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, ça a été quelque chose. Je pense que ça vient de mon éducation. Comme je dis, je pense que pour avoir confiance, la confiance en soi, pour moi, c'est un échange aussi, parce que pour avoir confiance, il faut qu'on nous ait donné confiance, je pense.
Ouais.
Et moi, j'ai des parents qui étaient assez anxieux, et je le suis aussi.
Ouais.
Et plutôt à vouloir protéger, pas toujours inciter à faire des choses. Et donc, du coup, je pense que, j'ai manqué de confiance en moi. Et c'est primordial d'avoir confiance en soi pour pouvoir s'épanouir, vivre pleinement sa vie, quoi.
Alors, c'est bien évidemment très important d'avoir confiance en soi, mais lorsqu'on évoquait tout à l'heure que ce manque de confiance en soi peut être aussi un moteur, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que l'excès de confiance peut nous amener parfois à des comportements, des comportements décevants pour notre entourage. Mais je voudrais revenir à vos parents. De quelle manière, en fait, étaient-ils ils se comportaient d'une drôle de manière. En tout cas, vos parents semblent avoir contribué grandement à ce manque de confiance. À travers quel type de comportement vis-à-vis de vous?
Moi, je j'accuse rien à mes parents parce que j'ai eu des parents formidables et j'ai eu une très belle enfance.
Oui.
Et je pense que malheureusement, eux n'ont pas eu non plus, quand ils étaient petits, confiance en eux.
Oui.
Et je pense qu'ils n'ont pas réussi à me le donner du coup, quoi. Et moi, en tout cas, je revois beaucoup de choses dans ce que me raconte l'enfance, quand ma mère raconte son enfance. ça me fait de la peine parce que je me dis, mais voilà, il aurait fallu que tu aies une autre vie, quoi. Et je pense qu'elle n'a pas réussi à me donner confiance en moi non plus parce qu'elle n'a pas eu non plus.
C'est un combat pour vous de prendre conscience de votre valeur. Et votre méthode à vous pour retrouver confiance, c'est de faire du sport. Racontez-moi ce que cela vous apporte de faire du sport. Est-ce que ça passe par la performance ?
Non, pas du tout. Ça a été, disons que ça a été quelque chose qui moi m'a libéré beaucoup parce que j'ai, déjà ça fait du bien de faire du sport, hein, ça, ça c'est vrai, c'est faut pas. Et puis de rencontrer des gens, voilà, avec qui on partage la même passion, enfin les mêmes goûts, de discuter, puis de se rendre compte, tiens, il y a une nana là, elle est jolie,
comme moi.
Elle est voilà, et puis elle me dit, elle parle avec moi, elle est sympa, et puis et du coup, ça donne confiance, quoi. Et ça permet en tout cas de se donner des valeurs, en fait, qu'on ne soupçonnait pas forcément. Quoi.
La confiance en soi, ça passe souvent par le partage, comme vous l'évoquez, souvent aussi par le regard que l'autre porte sur vous. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous avez plus confiance en vous, que vous avez conscience de votre valeur ?
Oui, alors ça, voilà, je suis contente là-dessus, parce que j'ai réussi à avoir confiance en moi, en m'analysant un petit peu et puis en faisant des efforts que je faisais pas forcément quand j'étais plus jeune. Et je suis contente parce que j'ai plus confiance en moi maintenant, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est pas acquis, je pense, hein. On a toujours cette petite réserve, quoi, en nous, quoi. Et
ça n'est jamais acquis, Marie. Ouais. N'oubliez pas ça. Et c'est vrai que éternellement, il faut se faire un peu violence. En tout cas, bon, je sens que ça va quand même beaucoup mieux aujourd'hui.
Oui, je sens aussi, voilà. Et puis, bon, là, actuellement, j'ai un travail qui m'intéresse. Et puis, j'ai eu des responsabilités dernièrement qui me donnent confiance en moi aussi.
Qui vous porte.
Bon, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, voilà, quoi.
C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup,
Merci
Marie.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci pour votre témoignage. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir Iris. Elle a toujours douté d'elle, ce qui l'a souvent empêchée de prendre des décisions. Mais elle se soigne en soignant les autres.
Europe 1. Comme Marie, vous avez tendance à vous sentir inférieure aux autres. Quelles sont les clés pour prendre de l'assurance ? Venez nous raconter votre histoire au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et vous nous dites aujourd'hui comment reprendre confiance en soi.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Iris. Bonjour Iris, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Iris ?
Alors j'ai 28 ans et je viens de Paris.
D'accord. Alors, vous dites, vous, avoir toujours manqué de confiance en vous et que c'est quelque chose qui vous a beaucoup bloqué. Racontez-moi.
Alors, en fait, la confiance en moi, bon, j'ai toujours depuis petite, mais ça n'a pas vraiment bloqué dans ma vie. C'est juste ce sentiment de ne pas arriver à faire les bons choix, ne pas arriver forcément à avoir mes capacités pour faire quelque chose.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de doutes derrière, mais ça n'a pas si bloqué dans mes choix de vie et dans ce que j'entreprends actuellement.
Parce que vous faites quoi aujourd'hui, par exemple ?
Alors, du coup, j'accompagne les personnes qui manquent de confiance en elles.
Ah oui ? C'est
voilà,
pas mal.
Voilà, justement.
Ouais.
Et donc, à trouver sa voie, à mieux se connaître, mieux s'accepter, donc tous ces domaines-là, dont la confiance, justement, en soi.
Donc, est-ce que vous seriez celle qui porte l'étendard de toutes celles et de tous ceux dont on dit que ce manque de confiance est un réel moteur et qui en font finalement des personnes fortes et qui peuvent, comme vous, conseiller les autres ?
Oui, c'est à peu près ça, ouais. En tout cas, je prends ce que j'ai vécu moi comme exemple et ce que j'ai entrepris de mon côté comme exemple aussi, comme type de solution pour justement contrer ce manque de confiance et faire en sorte qu'on puisse voir ses capacités. Donc effectivement, je me sers de mes expériences, de ce que j'ai testé pour aider les autres à avancer sur leur propre chemin.
Ouais. Et vous voulez que je vous fasse une confidence ?
Allez-y.
Moi, je manque totalement de confiance en moi, vous savez.
Je pense que c'est tout le monde.
Vous pensez que c'est tout le monde ? Vous pensez que c'est tout le monde ?
Je pense que quand on, par exemple, on essaie des choses qui sont nouvelles, on ne connaît pas nos capacités pour ce sujet-là, donc du coup, il y a un manque de confiance qui peut venir. En tout cas, moi, je le ressens quand je fais des choses qui sont nouvelles, comme passer à la radio, par exemple, il y a un petit manque de confiance en moi qui ressurgit. Mais je pense que tout le monde, oui, il y a un manque, de confiance quelque part, même si ce n'est pas forcément visible, effectivement.
Alors, d'où il vient ce manque de confiance, d'après vous ?
D'après moi, c'est personnel, mais je pense que ça vient de l'école.
Oui.
Le sentiment d'échec persistant, on a tendance aussi à avoir davantage ce qui n'a pas marché, ou ce qu'on n'a pas bien fait à l'école, plus que ce qui a été effectivement réussi. J'aime bien citer l'exemple, par exemple, du stylo rouge. On utilise un stylo rouge pour notifier ce qui a été mal fait,
oui.
Mais on ne pense pas forcément à prendre un stylo vert pour valoriser ce qui a été bien fait.
Mmh. Et puis le stylo rouge, il reste à vie. Hein. Dès qu'on,
en tout cas, ça, oui.
Dès qu'on voit du rouge aujourd'hui, ça fait peur. Il y a 2 ans, donc vous le disiez tout à l'heure, hein, vous êtes devenue auto-entrepreneuse, vous conseillez. C'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps.
Oui, je pense. Ça a toujours été en moi, finalement, de faire ce genre de métier. Oui.
Ouais. Et je suppose que ça vous a angoissé au départ. Vous avez dû avoir du mal à vous sentir légitime, n'ayant pas
Exactement.
Vous-même confiance
ouais,
en vous.
C'est ça. C'est vraiment savoir quelle place on doit prendre quand on se lance dans un métier plus en freelance, effectivement, qu'un métier salarié. De savoir quelles compétences on peut mettre en avant pour faire ce type de métier. Donc effectivement, oui, ça a impacté sur le sentiment d'illégitimité. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui vous a aidé à vous affirmer et confirmer que vous étiez dans la bonne voie ?
Alors, c'est déjà me rendre compte que je manquais de confiance en moi, l'accepter.
Oui.
Finalement le jauger, me dire que oui, il était encore présent et que j'ai pas fait disparaître totalement.
Ouais.
Et la deuxième chose, ça a été de commencer une sorte de thérapie, de me dire mais en quoi je peux avoir confiance en moi, qu'est-ce que je suis capable de faire, de pas forcément voir l'échec dès que quelque chose ne marche pas du premier coup, mais c'est justement passer du côté de l'expérience et me dire quelle expérience ça m'apporte, quelles compétences ça m'apporte comme compétences supplémentaires et avancer comme ça.
Je me tourne vers vous, Emmanuel Gontier. On écoute Iris et j'ai l'impression de m'entendre aussi lorsque j'ai souvent eu ce sentiment, ce syndrome de l'imposteur. Vous voyez, vous le connaissez ce sentiment.
Oui.
D'où il vient ce sentiment et pourquoi les personnes en sont victimes?
Ben, je pense que ça fait le lien avec tout ce qu'on a déjà dit jusqu'ici, c'est-à-dire que si on a été renforcé dans ce qu'il y avait de peut-être un peu moins bien chez nous, on a tendance à se dire qu'on ne va pas y arriver.
Ouais.
Donc le jour où on y arrive, où on pressent qu'on va pouvoir réussir quelque chose, on se dit que finalement, ce n'est peut-être pas tout à fait justifié. Et donc on a cette position d'imposteur.
Mais ça
c'est
peut...
pas toujours évident.
Ça
et ce n'est pas facile de faire la différence entre la peur de réussir et la peur d'échouer.
Ça peut être très tenace, hein, ce sentiment-là.
Oui, tout à fait. Et parfois, réussir, ça veut dire aussi être soi-même. Et être soi-même, ce n'est pas si facile à accepter quand on, par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'accepter et dire qu'on a les compétences et qu'on va pouvoir faire au-delà de tout ce qu'on nous a inculqué pendant longtemps dans notre éducation.
Alors justement, Iris, aujourd'hui, est-ce que vous vous acceptez à force de voir que bien vous réussissez quand même dans la mission que vous êtes donnée?
Alors, m'en défaire pas totalement, et c'est vrai qu'en écoutant ce que disait Emmanuel, ça résonne assez avec ce que j'ai compris et ce que je comprends actuellement, oui. Oh, ouais.
Eh bien, merci beaucoup Iris pour votre appel, votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bon courage pour votre auto-entreprise. Hein, je vous souhaite plein de réussite. Mille
merci
pour votre témoignage. Merci aussi à Aurélie, à Kate, à Marie et à Emmanuel Gontier pour ses analyses, ses éclairages. Essayer de s'accepter tel que l'on est avec ses qualités et ses défauts. Ne pas se comparer aux autres, ce n'est pas bien évidemment toujours facile. Mais c'est un début quand on manque de confiance en soi. Personne, de toute façon, n'est parfait et chacun a des capacités qui lui sont propres et sur lesquelles il peut capitaliser. La sophrologie, le sport, comme on l'a dit tout à l'heure, le yoga, faire une séance de photos, commencer une thérapie peuvent vous aider à retrouver confiance en vous et ne pas oublier que ce manque de confiance peut être un atout et un moteur. On peut continuer à en parler, Ombline.
Oui, vous échangez, n'hésitez pas sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram Olivier Delacroix officiel. Et puis, Sabine Marin vous écoute le soir, le week-end, la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, aussi dit TDAH, être hyperactif, qu'est-ce que ça veut dire? Si votre enfant a été diagnostiqué TDAH, si vous, adulte, vous avez été diagnostiqué mais tardivement, appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier, assistée d'Armel Thiberge, à l'éditorial de cette semaine. Merci aussi à l'excellent Boris Paczynski à la réalisation. Et merci à vous, chère Ombline, de m'avoir
Olivier.
Accompagné tout au long de cette semaine. J'étais ravi, comme d'habitude.